Entretien avec Gilles Le Gardinier, Paris, septembre 2016.
Gilles Le Gardinier, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à nouveau avec nous pour nous parler de votre nouveau roman. Alors ce roman, Le Premier Miracle, est très différent des précédents. C'est un roman d'aventure vraiment trépidant, désopilant, qui nous fait voyager dans le monde entier. Et vous dites en avoir eu la révélation en faisant de l'escalade. Alors racontez-nous un peu mieux comment est née cette histoire, parce qu'on a du mal à avoir le lien finalement entre l'escalade et cette intrigue aussi foisonnante.
Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, le lieu y est pour quelque chose, mais l'ambiance y est pour quelque chose aussi. Donc, je le dis dans le dernier chapitre. J'étais au nord de l'Écosse en train d'essayer de prendre une photo pas très loin d'Oban. Et j'ai imaginé une scène qui serait en fait la rencontre d'un homme avec Hitler qui aurait pu vieillir. Donc en fait, on croise des vieux tous les jours, on discute avec beaucoup, il y a plein de vieilles personnes avec qui on parle. Si ça se trouve, ça a été des monstres, mais on ne le sait pas, on voit des gentils petits vieux. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait une conversation entre quelqu'un qui ne sait pas que c'est Hitler et s'il avait pu vieillir, qu'est-ce qui se passerait? Et en fait, ce moment-là m'a obsédé. Alors il est né là-bas parce qu'il y a quelque chose de très âpre. En Écosse, surtout quand on est dans de l'eau froide, et qu'il y a quelque chose qui ramène vraiment à des scènes très fortes, à des choses très historiques qui échappent un peu à l'époque. On est hors du temps, hors de l'espace, et ça favorise ce genre de pensée. Cette scène-là m'a vraiment obsédé, parce que je trouve que c'est un sujet presque de thèse très intéressant, et pourtant elle n'est pas dans le livre, parce qu'en fait j'ai construit l'histoire autour, mais je ne l'ai pas gardée, parce qu'au final c'était trop, peut-être trop théâtral. Donc ça a été une bonne étincelle, mais c'était pas assez bon pour le roman.
Donc après, vous avez élaboré une intrigue vraiment voilà. Très détaillée.
Oui, c'est vraiment l'étincelle. Et après, l'histoire, au moment où j'ai commencé à l'écrire, elle était dans ma tête depuis presque 8 ans. Donc j'ai eu le temps de me poser la question si ça valait le coup de déranger les gens. J'ai eu le temps d'avoir du succès en comédie et de me demander s'il fallait oser proposer autre chose que la comédie telle qu'on attendait aux gens. Mais voilà, mon job, c'est de raconter des histoires, d'entraîner les gens dans un univers différent en essayant d'être le plus moi-même possible. Et je pense que cette histoire-là me le permettait.
Oui, en tout cas, c'est très réussi. Et est-ce qu'on a raison de voir dans ce livre un petit peu d'Indiana Jones, du Da Vinci Code, d'OSS 117? Est-ce que vous avez eu des inspirations comme ça?
C'est... Quelqu'un qui écrit en pensant à ce que d'autres ont fait, c'est pas un auteur, c'est un copieur. Alors, je suis évidemment inspiré par tout ce que j'ai vu, par tout ce que j'ai lu, par tout ce que j'ai ressenti. Mais mes gamins, quand ils font des choses un peu tordues, sont autant une source d'inspiration que des grands films. Donc je n'ai pas cherché à ressembler ou je n'ai pas cherché à calquer des codes. Pour moi, c'est même un repoussoir. C'est-à-dire, si ça a déjà été raconté aussi brillamment que dans les œuvres auxquelles vous faites référence, je ne veux pas m'aventurer dessus, parce que je ne vois pas l'intérêt d'emmener le lecteur à des endroits qu'on lui aura déjà montré 500 fois si ça n'est pas pour ajouter quelque chose d'original ou de plus ouvert. Donc voilà, modestement, je suis pétri, nourri et infusé par les influences du monde dans lequel je vis, la musique, le cinéma, les livres, mais par contre, je ne m'en inspire pas.
Et alors, vous expliquez avoir fait beaucoup de recherches pour écrire Le Premier Miracle. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Parce que ça a l'air vraiment passionnant, ce que vous avez fait.
Déjà, je vous invite, même si les gens qui écoutent nos mots n'ont pas forcément l'occasion tout de suite au moment où on parle, allez sur mon site, allez voir les images qu'il y a. Parce qu'effectivement, bon, j'en parle, l'église d'York, tout ça. Il a fallu que je me documente sur chaque chose. Il y avait des choses qui étaient dans ma culture. Mais que pour il fallait que je les intègre complètement. C'est-à-dire pour moi, même si c'est pour un sujet de comédie, un sujet léger, il faut maîtriser son sujet. Donc quand je parle même d'un livre, même d'une toile, même d'une expérience scientifique, j'ai besoin de creuser le truc à fond pour après n'en garder peut-être que 5%, 3%. Mais je veux que la base soit claire. Mon rêve, je ne sais pas si j'y arrive, c'est que même les gens qui sont spécialistes du sujet avec lequel je joue puissent dire honnêtement, il a fait son travail. Donc j'ai tout fait pour... voilà. Après, c'est un roman, hein. Je ne suis pas dans le documentaire.
Si vos livres ne se ressemblent pas, ils ont quand même un point commun de taille, c'est l'humour. Tous vos livres présentent vraiment beaucoup d'humour, notamment dans les dialogues qui en sont truffés. Est-ce que pour vous, c'est un point important pour faire un bon livre?
Pour faire un bon livre, je ne sais pas. Pour faire une bonne vie, je crois que l'humour est important dans ma vie. Donc il est partout, même aujourd'hui quand on travaille, j'ai besoin de ça. Ça fait pour moi une existence réussie, c'est une existence qui se passe sérieusement mais sans se prendre au sérieux. D'autre part, et ça c'est un conseil que je rabâche à tous les gens, si vous êtes confronté à des gens qui n'ont pas d'humour, barrez-vous, c'est des crétins. Pour moi, l'humour est un gage d'intelligence, c'est certain, mais d'humanité aussi. Et c'est plus important que l'intelligence. Et du coup, oui, j'en mettrai partout.
Vous avez un rythme de publication vraiment impressionnant. Vous publiez un roman par an. Comment vous faites pour tenir la cadence et pour maintenir un rythme d'écriture, je suppose, assez intensif, alors que vous avez une vie professionnelle et une vie privée que vous ne sacrifiez pas pour autant?
Alors non, honnêtement, si jamais on me laissait tranquille, c'est-à-dire si j'avais que le métier de l'écriture, je pourrais faire 2-3 livres par an. Parce que j'ai la particularité de penser mes sujets des années en amont. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je connais le sujet de mes 6-7 prochains bouquins. Donc en fait, à quel moment je vais les écrire, je ne sais pas. C'est comme les fruits, j'attends de les amener à maturité avant de les déguster. Mais honnêtement, non, c'est pas, je ne suis pas un auteur maudit, j'aime écrire. Et écrire n'est que la phase finale de la construction du livre. C'est-à-dire, c'est le moment où vous avez tout pensé, vous avez fait vos plans dans votre tête, vous connaissez votre sujet et vous concrétisez ce que vous avez imaginé. Mais ce n'est pas la phase la plus longue. Chez moi, la phase la plus longue, c'est la maturation du sujet, le faire passer par tous les filtres que je peux pour éviter l'ennui, parce que j'aime pas m'ennuyer, j'aime pas ennuyer les lecteurs. Peut-être l'originalité, mais je sais pas, j'ai pas tout lu, c'est peut-être très prétentieux de dire ça.
Et vous arrivez à écrire tous les jours ?
Non, il y a des jours où j'écris pas. Il faut écouter ça. Il y a des jours où vous avez envie d'écouter de la musique, il y a des jours où vous êtes très amoureux, il y a des jours où vous mangez pas beaucoup. Il faut écouter sa nature. On est dans des activités d'instinct. On est dans des activités qui ne supportent pas la pression industrielle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je serai obligé de me forcer pour un livre, j'arrête. Il faut vraiment... ces choses-là, c'est comme les fleurs, c'est comme tomber amoureux, ça doit arriver par la grâce, ça doit arriver au bon moment pour les gens et pour celui qui le fait. Donc honnêtement, non, je ne me force pas, ça va très bien.
Dans votre postface que vous venez d'enregistrer pour nous, vous faites une vraie déclaration d'amour à vos lecteurs. C'est vraiment très touchant tout ce que vous leur dites, tout ce que vous nous dites. Mais alors, outre le fait que leur présence vous galvanise et vous réjouit, est-ce que c'est pas aussi un peu angoissant quand vous êtes en train de travailler un livre, de savoir qu'il y a des centaines de milliers de lecteurs qui vont lire ces lignes ?
Non, ça m'angoisse pas. Non, ça me porte. Quand vous êtes... vous, c'est pas si loin, hein, Camille, hein, vous êtes toute jeune. Quand vous êtes gamine et que vous faites un dessin à vos parents, vous vous demandez pas la pression que vont... Vous vous mettez pas la pression parce que vos parents vont avoir le dessin. Vous avez envie, vous le faites. Et ils l'accueillent. Vous avez juste la seule peur que vous ayez, c'est celle de décevoir ou de ne pas faire plaisir. C'est même pas de décevoir, c'est de ne pas faire plaisir. Mais j'en suis là. J'ai 4 ans d'âge mental, c'est dit. Et je dessine avec des mots pour des gens qui viennent me voir après et qui apparemment ont bien aimé mon dessin. Donc ça me touche énormément, mais il n'y a pas la pression. Vous savez, c'est une dérive du métier de ramener ça à des centaines de milliers de personnes. Mon livre, à chaque fois, je suis seul avec la personne qui le lit. C'est-à-dire, les gens m'emmènent dans leur lit, dans leur voiture, je suis dans les sacs à main, mais à chaque fois, c'est un match un à un avec chaque personne. C'est à elle que je raconte. C'est pour elle que j'écris, c'est elle que j'espère distraire. Et la notion de groupe, c'est une addition d'individualité pour moi. Je ne conçois pas les gens qui me lisent comme un groupe qui se résumerait à une puissance économique ou à un chiffre. C'est une association d'individualité qui se retrouve dans des valeurs qu'on partage et dans des envies de ressentir.
Une question propre au livre audio. Est-ce que le fait de savoir que votre livre va peut-être être écouté en livre audio et non pas lu en livre papier change votre manière d'écrire ?
Non, pas du tout. Non, ça change pas. Ça change pas du tout. Si vous voulez, mes histoires sont toujours des histoires guidées par l'émotion, toutes les émotions. Du coup, il n'y a pas de construction où je me dis ça va être vu, ça va être lu. Non, c'est je suis sur le sentiment, le sentiment de la vie, l'action, mais du coup, que ce soit lu ou entendu, non, c'est le même bonheur. J'espère transmettre le même bonheur à ceux qui lisent ou à ceux qui écoutent.
Merci Gilles Le Gardinier.
Merci Camille, merci beaucoup.